Et bonjour, bienvenue dans l'Étoile Polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDWA. Alors on est bien content de vous retrouver cette semaine pour discuter d'astronomie. On est trois dans le studio aujourd'hui, Axel, Pierrick et Fred.
Bonjour à tous.
Et à toutes.
Alors c'est le 96e épisode de l'émission. On vous rappelle que vous pouvez toujours écouter toutes les émissions depuis le début sur le podcast, hein, sur le site de RDWA. Vous allez sur rdwa.fr, dans les émissions thématiques, vous trouvez l'Étoile Polaire, avec ce podcast qui est illustré donc, par les photos du ciel prises par Axel et Rémi. Voilà, on vous redonne aussi le mail de l'émission, astro-rdwa@protonmail.com, si vous voulez nous contacter, si vous avez envie de venir participer à l'émission dans la rubrique Nouvel Oeil pour nous parler de votre rapport au ciel. On en profite, puisqu'on n'a toujours pas eu de message de repreneur, pour vous redire, si vous ne l'avez pas déjà entendu, que nous allons arrêter l'émission à la fin de l'année. Et que nous sommes prêts à passer le bébé, s'il y a des gens qui sont intéressés pour venir faire de la radio et parler d'astronomie à notre place. Vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas à nous contacter si ça vous intéresse, même si vous n'avez jamais fait de radio. Par contre, c'est bien si vous avez déjà fait un peu d'astro. Voilà. Voilà pour cette petite introduction à l'émission. Alors, le sommaire de cette semaine, ce sera comme d'habitude pour commencer le ciel ce soir. Ensuite, on aura la rubrique Abrac avec cette semaine Pierrick. Avec Axel qui va nous parler du passeport astronomie.
Ouais, pour voyager entre les étoiles.
Mm-hmm. Et après la pause musicale, ce sera encore la rubrique Abrac, mais cette fois avec Pierrick qui nous parlera de la force de Coriolis.
Tout à fait. Ouais.
Que la force soit avec toi, Pierrick.
Merci. Ouais, merci.
Et pour terminer, ce sera la chronique astrale où je vous parlerai des mots qui décrivent le monde, en fait, un peu le vocabulaire qu'on utilise très souvent dans cette émission et ailleurs, mais qui n'est pas toujours forcément très clair pour tout le monde. Voilà pour ce sommaire. Alors, on attaque avec le ciel ce soir. Alors là, déjà, on a changé d'heure en ce moment, donc quelque part, l'astronome est content, hein, oui. Puisqu'il peut sortir son télescope plus tôt. Parce que là, il commence à faire nuit à 18h, hein, 18h, 18h30, on peut attaquer l'astro. Quand le soleil se couche, qu'est-ce qu'on voit? Et bien, on a quand même toujours ce triangle d'été dont on vous parle depuis le printemps, qui est au zénith, enfin déjà un peu vers l'ouest. Et il a commencé à passer le méridien, donc avec ces trois étoiles bien brillantes, hein, que sont Vega dans la Lyre, Deneb dans le Cygne et Altaïr dans l'Aigle. On a aussi une étoile bien bien brillante à l'ouest, légèrement, enfin même assez orangée, c'est Arcturus dans le Bouvier, qui prolonge en fait le manche de la casserole, hein, en suivant un peu l'arrondi de cette partie de la Grande Ourse.
Et qui frôle l'horizon.
Ouais, elle est assez basse.
Quand la nuit arrive.
Tout à fait, par se coucher. À l'ouest, qu'est-ce qu'on a si on a Arcturus, eh bien, on a un peu au-dessus, on a la couronne boréale, dans laquelle on attend toujours une nova depuis un an, mais on n'a toujours rien vu. Donc, on va s'en prendre un peu au calcul des astrophysiciens. Et donc aussi Hercule, le grand H d'Hercule, avec en dessous le Serpentaire. Voilà pour cette partie du ciel qui va disparaître assez vite. Si on part plus vers le nord, à partir de la Grande Ourse, on trouve comme d'habitude, hein, toujours toute la région circumpolaire. Donc cette région en fait, qu'on voit toute l'année, où les étoiles ne disparaissent jamais derrière l'horizon. Donc ça forme un disque, hein, autour, centré sur l'étoile polaire. Donc on a la Grande Ourse, on a la Petite Ourse, on a le dragon qui serpente entre les deux et dont la tête revient vers Vega. On vous invite toujours à cette constellation qu'on voit toute l'année, le dragon. Une fois qu'on a vu comment elle serpentait là, entre les deux ours, particulièrement ses yeux, je trouve, les yeux du dragon, ouais. la tête en triangle, il y a deux étoiles assez brillantes qui sont assez évocatrices et qui regardent vers Vega. Donc voilà, en face de la Grande Ourse par rapport à l'étoile polaire, on trouve Cassiopée, le W de Cassiopée, qui est bien dans la Voie lactée. Et en dessous de Cassiopée, on va trouver Persée, puisque là, bah, du coup, on bascule sur l'Est maintenant. Et au moment du coucher du soleil, on va trouver assez vite, enfin tout de suite d'ailleurs, le carré de Pégase. Le grand carré de Pégase qui se prolonge par la constellation d'Andromède, dans laquelle se trouve la seule galaxie visible à l'œil nu, du ciel boréal en tout cas. Ouais. Voilà pour cette histoire. Alors ce qui est intéressant, c'est que sous Pégase, bon, il y a les poissons, une constellation qui n'est pas très, très, très visible, mais qui est quand même là. Mais en tout cas, sous Pégase, vous avez ce qui semble être une étoile bien brillante, c'est Saturne. On en a déjà parlé, Saturne qui cette année, en fait, dont les anneaux cette année sont quasiment dans notre plan, donc on les voit assez mal, ils sont très fins, enfin on les voit mal, ils sont très fins. Donc ce n'est pas forcément la meilleure année pour observer Saturne, mais ça n'empêche pas d'observer des bandes sur sa surface hein, qu'on voit au télescope, dès qu'on grossit un peu, au 200, au 300, on voit clairement les bandes atmosphériques. Elles sont un peu plus ténues que sur Jupiter, mais on peut quand même voir une structure sur le disque. Quoi. Et puis des fois on peut voir Titan, on peut voir un peu des petits satellites aussi, moins que sur Jupiter encore, mais là aussi on en voit. Voilà pour ce ciel de début de soirée. Alors à mesure que la nuit va avancer, vont se lever, eh bien, tout d'abord, on va avoir le taureau qui va apparaître avec son étoile bien rouge, là, Aldébaran, qui forme un V avec à côté les Pléiades, cet amas ouvert dont on vous a déjà maintes fois parlé. On va avoir Capella avec le cocher et puis assez vite on va avoir Orion avec le grand baudrier d'Orion. Là c'est trois étoiles assez facilement reconnaissables et juste en dessous la grande nébuleuse d'Orion qu'on devine aussi à l'œil nu et qui se révèle déjà très simplement aux jumelles. On trouve aussi Sirius hein, qui est dans l'alignement de cette ceinture, une étoile extrêmement brillante, bah, la plus brillante du ciel. Dans le grand chien. Et puis au-dessus, en continuant le zodiaque, on a dit, hein, sous Pégase, on a les poissons. Donc on s'apprête les poissons et arrive le bélier, puisque c'est le point de départ du zodiaque. Et on repart en fait sur ce cycle, avec donc le bélier, les taureaux, les gémeaux qui arrivent derrière, Castor et Pollux, deux étoiles bien brillantes. Et sous Castor et Pollux, en ce moment, on trouve Jupiter. Alors Jupiter d'ailleurs qui va démarrer un mouvement rétrograde, alors c'est un mouvement apparent, hein. elle continue à tourner comme d'habitude dans le même sens autour du Soleil, mais en fait un mouvement rétrograde c'est quand nous on la dépasse en fait, quand on la dépasse sur son orbite du coup on a l'impression qu'elle se met à reculer. Donc là elle va entamer un mouvement rétrograde à partir du 11 novembre qui va durer, alors, je ne sais pas exactement mais je dirais quelques mois.
Donc elle repart vers la droite.
Et elle repart vers l'ouest.
Elle va faire une petite boucle.
Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà pour ce tour du ciel. Vous avez quelque chose à rajouter ? Il y a quand même le lion qui va se lever en fin de nuit. Ouais. Vraiment fin de nuit. Alors le lion, lui, il est sous la Grande Ourse, en fait. Un peu plus bas, mais il est vraiment dessous. Je le mentionne, ce lion, parce qu'en fait, là, au mois de novembre, on va avoir le petit maximum de l'essaim des Léonides, donc des étoiles filantes. Dernière émission, on avait parlé des Orionides. Et là, c'est pareil, ça va être en fin de nuit, les Léonides, le maximum, c'est le 17 novembre, et on attend une quinzaine d'étoiles filantes par heure. Donc, c'est pas non plus extrêmement dense. Mais il va y en avoir quelques-unes, plutôt en fin de nuit. C'est pour ça que je parle du lion, parce que c'est toujours cette histoire, hein, je vous renvoie à l'émission d'avant, mais si on trace dans le ciel la trajectoire de ces étoiles filantes, eh bien on a l'impression qu'elles viennent de la constellation du lion. Voilà pour ce petit tour du ciel. Mars, on ne peut pas la voir, je réfléchis aux planètes. Il y a quand même Neptune et Uranus qui sont visibles. Alors, pas à l'œil nu, il faut les chercher au télescope, mais c'est une période où on peut, pour ceux qui ont envie de se pencher là-dessus, les observer. On ne va pas avoir un très gros diamètre apparent, mais on va voir un léger disque coloré, voilà, avec deux bleus différents l'un de l'autre pour Uranus et pour Neptune. Voilà.
Et Vénus
Vénus, c'est pas visible, je crois.
Ah ouais.
Je suis pas sûr, non. Et par contre, on a. Bah moi, j'étais content hier de voir Saturne déjà levé alors que le ciel était encore un peu bleu. Au-dessus du Glandas, vu depuis l'ouest de Die. Et puis, pour terminer, on vous avait annoncé la possibilité de voir une comète. Elle est passée au plus près de la Terre le mardi 21, mais toute la semaine du 20, il a fait moche, donc il n'a pas du tout été visible pour nous, mais elle était visible à l'œil nu, puisqu'elle était magnitude 3 au plus bas. Et là, elle a passé son point le plus proche de la Terre, elle s'éloigne maintenant, donc forcément, elle perd en taille et en brillance. On a essayé de l'observer chacun de notre côté il y a quelques jours, mais elle est beaucoup trop loin. Alors en photo, j'ai pu avoir un tout petit aperçu avec un appareil photo basique, hein, sans équipement d'astrophoto. Donc peut-être que ça illustrera ce podcast sur le site rdwr.fr. En tout cas. À l'œil nu, eh ben on n'a rien vu et on peut lui dire bonne route et à bientôt dans quelques milliers d'années. Voilà. Et puis dans les autres phénomènes transitoires comme ça, mis à part les comètes, il y a des choses tout à fait artificielles qui se baladent et l'ISS par exemple, la Station Spatiale Internationale que vous pourrez observer. Alors si vous nous écoutez lors de notre première diffusion, ça sera vraiment pour les lève-tôt, la semaine du 3, il y a 3-4 jours où elle est visible, mais à 5h30 du matin. Par contre, si vous nous écoutez le 9, si nous sommes le 9 au moment où vous nous écoutez, eh bien la semaine qui vient, il va y avoir des beaux passages à 19h30, à 20h, à 19h. Alors entre 19 et 20h, tous les soirs de la semaine, des passages à magnitude moins 3, moins 4, et même à magnitude moins 5. Elle passe très très haut dans le ciel.
Ça commence à être bien brillant là.
Ah ouais, moins 5, c'est plus brillant que Vénus quand elle brille au maximum. Et elle passe à 80 degrés d'élévation, donc vraiment quasiment au-dessus de nos têtes. Et ça sera pour le vendredi 14. Vendredi 14 à 18h56.
Notez bien.
Non, l'heure locale.
L'heure locale.
18h56. Vous regardez vers l'ouest. Et vous allez voir une étoile très brillante se balader et traverser le ciel en 3-4 minutes.
Ouais, c'est rapide. Hein, ouais. Ouais.
C'est rapide, enfin, c'est pas une étoile filante non plus. Quoi.
Non.
C'est comme un satellite.
Oui, ouais,
le temps de passer.
Un peu comme un avion. Ouais.
Après, ça reste un point brillant.
3-4 minutes pour faire tout le ciel. Quoi. Ouais.
Ouais. Faut pas s'attendre à avoir une forme de vaisseau spatial. Quoi.
Non, c'est un point brillant, oui.
En fait, ce qu'on voit, c'est le reflet du soleil dans ses antennes.
Oui, c'est vrai que je voulais rappeler ça. C'est pas elle qui éclaire pour nous faire un bonjour. Hein. C'est le soleil qui l'éclaire et qui se reflète sur les panneaux solaires qui font à peu près la superficie d'un stade de foot. Et c'est ça qui nous permet de la voir. Et on pourra quand même essayer de saluer en passant les 10 astronautes qu'il y a en ce moment dedans. Un peu moins, je crois. Ils sont 7 en ce moment dedans.
On va pointer tous nos lasers vers
l'ISS. C'est ça. Voilà, voilà.
Alors, il y a qui dans l'ISS ?
En ce moment, il n'y a pas d'Européens. Il y a trois Américains, trois Russes et un Japonais.
Ah ouais.
Voilà. Et puis, il y a la station spatiale chinoise qui se balade aussi, où ils sont trois en ce moment dedans, mais elle est beaucoup moins visible. C'est à peu près aux mêmes horaires. Là, pour le coup, c'est pour la semaine qui arrive, la semaine du 3. Mais avec des magnitudes beaucoup plus faibles, au maximum c'est magnitude 1. C'est quand même visible. Hein.
Largement. On rappelle les magnitudes, hein, plus le chiffre est petit et plus c'est brillant, donc ça peut même être négatif. Et par contre, au-delà de 6, c'est plus visible à l'œil nu. Quoi. Entre 0 et 6, ou moins 3, moins 4 et 6. Voilà, mais au-delà de 6, on ne peut plus voir à l'œil nu. Et nous, avec les télescopes amateurs, on peut monter jusqu'à magnitude. Déjà, magnitude 10, ça commence à être faible. On peut attraper 10, 11, ouais. Mais au-delà, ça, magnitude 12, ça devient... Il faut des plus gros diamètres. Quoi.
Parce qu'on peut rappeler, pour finir, que c'est une échelle qui n'est pas linéaire. Et, entre deux magnitudes, c'est estimé à peu près 2,5 fois moins brillant si c'est on ça. Augmente d'une magnitude.
Ah oui.
Donc, tout à fait.
Voilà.
Ok, et ben, merci Axel pour ces petites précisions sur ce qu'on peut observer en ce moment. Ça va être le moment de passer à la rubrique à braque.
La première
partie de la rubrique à braque que tu as décidé de consacrer au passeport astronomie.
Oui, tout à fait. Le passeport astronomie, c'est un petit document officiel, on va dire, plus ou moins. Je pense que si je présente ça...
À la frontière.
Oui, à la frontière ou à un contrôle de police, ça ne va pas leur plaire. Mais pour les clubs d'astro ou pour les structures comme ça, ça peut être ça peut avoir un tout petit peu de valeur indicative, en tout cas, sur votre pratique, sur vos expériences. Tout ça. Ça a été créé par l'Association française d'astronomie, donc une des deux grosses assos françaises, une des deux assos d'envergure nationale, l'AFA, de son petit nom, qui a été créée en 1946. Mais le passeport astronomie, lui, c'est bien plus récent, c'est depuis 2006 que ça existe. Et parallèlement aux créations de ce passeport astro, ils ont créé... en fait, c'est décomposé en quatre étoiles, comme au ski. On passe sa première étoile, sa deuxième étoile, troisième et quatrième, qu'on peut même repasser plusieurs fois la quatrième, mais je vais y venir. Il y a aussi l'équivalent plutôt destiné aux enfants, qui, même si les enfants peuvent passer la première étoile, mais pour les plus petits, c'est les petits ours, ils appellent ça, voilà, c'est les formations petits ours. Alors pourquoi je vous en parle ? Eh bien, tout simplement parce que je l'ai enfin eu, ça y est, je connais l'astronomie.
Bravo, bravo, on te félicite.
Non, mais voilà, comme je disais, c'est pas du tout quelque chose d'obligatoire et on peut progresser en astro sans passer par ça, puisque ça demande de passer par un des, je crois qu'il y en a une trentaine de structures habilitées par l'AFA pour délivrer ce passeport et ces étoiles.
Mais puis j'imagine que c'est des stages d'astronomie qui sont payants, en fait.
Oui, c'est des stages d'astronomie payants. La première étoile se passe en une journée et une nuit. La deuxième, c'est un peu plus long. La troisième, encore un peu plus. Voilà, alors moi, pour vous dire, pour être tout à fait transparent, je l'ai passé à l'Observatoire des Baronnies Provençales, donc pas très loin de chez nous, puisque c'est à quelques dizaines de kilomètres de Rémusat, à une heure de chez nous, à peu près. Et sur une semaine, j'ai passé les trois étoiles. Donc j'ai ce petit document en main et je me propose de vous décrire un petit peu ce qui est attendu du stagiaire comme connaissance pour mériter ces étoiles. Alors la première étoile, c'est vraiment le béaba de l'astronomie. C'est par exemple, il va falloir être capable de s'orienter et de se repérer sous le ciel nocturne. Par exemple en utilisant une carte du ciel tournante, une carte perpétuelle, de pouvoir trouver l'étoile polaire si on est dans l'hémisphère nord, quelques constellations de saison, parce que les circumpolaires c'est un peu trop simple, mais si on sait trouver 2-3 constellations à une saison donnée, c'est pas mal. Et connaître les relations temps-angle, c'est marqué, alors ça, c'est un peu mystérieux.
Mais encore.
Ouais, c'est, je pense savoir qu'avec un doigt à bras tendu, l'index bras tendu, c'est à peu près 1 degré dans le ciel, que le ciel se déplace de 2 degrés par heure, des choses comme ça, de degrés par minute. Ouais. Des choses comme ça. je vais la rendre mon passeport. Mince. Ensuite, il faut être capable aussi de préparer une observation nocturne, donc identifier un astre sur sa carte et la localiser. Déterminer les conditions pour réaliser une observation d'astro, donc savoir où se placer, se faire un petit programme, se dire « Ah ben si je veux observer ça, ça va se lever à l'est, mais il y a ce bâtiment qui va me gêner, donc je vais devoir attendre 23 heures pour l'observer. »
On avait fait une émission comme ça sur comment préparer une soirée d'astro.
Trouver les points cardinaux grâce aux étoiles. Alors, une fois qu'on a l'étoile polaire, c'est facile. Connaître quelques principes optiques et quelques caractéristiques d'instruments. Est-ce que pour ce que je vais observer, il va plutôt falloir que j'utilise ma petite lunette ou mon gros Dobson ? Et c'est quoi la différence d'ailleurs entre un télescope et une lunette ? Des choses comme ça, un peu de vocabulaire. Ensuite, il faut savoir observer la voûte céleste, différencier à l'œil nu une planète, une étoile, un avion, un satellite, une étoile filante, des choses comme ça. Utiliser et régler une paire de jumelles aussi, puisque c'est souvent le premier instrument d'astronomie que pas mal de monde a ça chez soi. Et voilà. Et puis même, pourquoi pas, si vous voulez essayer de faire une photo du ciel en filé, donc juste savoir qu'il faut utiliser plutôt des poses longues pour faire ressortir au mieux ce qu'on peut voir dans le ciel. Mais si on n'a pas de monture équatoriale, en tout cas de monture dotée d'un suivi, d'un moteur, on aura un filet d'étoiles, mais ça peut être très joli. Et pour finir, on peut apprendre à utiliser une lunette ou un télescope, vraiment ce qu'on appelle la mise en station, mettre en œuvre un instrument astronomique, observer un objet messier, pointer, suivre un objet. On peut même, si on n'est pas des couches tard, maîtriser les conditions d'observation solaire, ou soit avec des filtres, soit, il précise, par projection aussi, pourquoi pas. Voilà un petit peu le programme de la première étoile.
Il ne faut pas écouter l'étoile polaire pour voir
ouais, si c'est un peu dommage. On va leur proposer. Ouais. Et ils estiment qu'à l'issue de cette journée, donc, puisque ça se passe en une journée, je rappelle, et une soirée, une nuit d'observation, on aura donc une meilleure connaissance de ce qu'est une étoile, alors plus dans la théorie, de ce qu'est une étoile, une constellation, une planète, un amas ouvert, un amas globulaire, une nébuleuse, une galaxie, voilà, le bestiaire un petit peu d'astronomie. Ça, comme tu dis, on peut l'apprendre dans l'émission de l'étoile polaire. Parce que ça, oui, tu avais fait une émission, Fred, là-dessus. Enfin, même plusieurs sur du vocabulaire.
Sur le bestiaire, les différents types
bestiaire
d'objets.
Bestiaire cosmologique, c'était l'émission.
On peut observer, ouais.
55, 56 et 57.
Bravo.
On aura quelques connaissances sur les positions remarquables des planètes, les conjonctions, les élongations, les oppositions, et un petit peu, voilà, toujours avec la théorie de ce qu'il y a derrière, de la mécanique orbitale qui se cache derrière ces termes. On pourra donc expliquer ces notions par rapport à la position de la Terre. Quelques notions d'échelle de distance dans l'univers proche, le système solaire au moins, un peu plus loin c'est mieux. Les phases de la Lune aussi, on l'oublie souvent, parce qu'on sort quand elle n'est pas là, en général, en astronomie, sauf si on est passionné de cet astre qui est la Lune. Mais finalement, j'ai rencontré des gens qui pratiquaient déjà l'astronomie et qui avaient besoin de 5 minutes pour expliquer, pour faire un schéma de où se trouvent la Terre, le Soleil et la Lune au moment du premier quartier, deuxième quartier, des choses comme ça. Des notions de magnitude, si vous... Vous avez écouté l'émission il y a 5 minutes, on en parlait. Quoi d'autre ? Les mouvements de la Terre, les 3 principaux mouvements de la Terre, quels sont-ils, ces 3 principaux mouvements ?
Y a ça, la rotation sur elle-même, la rotation autour du Soleil, et puis le...
La rotation autour de son...
La précession
axe.
Exactement, c'est ça. D'où l'importance de l'inclinaison de l'axe polaire. Et pour finir, être capable d'appréhender, de comprendre les mécanismes derrière les éclipses de soleil et de lune. Voilà pour la première étoile.
Ouais, c'est dense,
déjà pas mal.
C'est
dense,
ouais.
Ouais, mais en une journée, il faut y aller.
C'est déjà pas mal.
La deuxième étoile, celle-là, se passe pour approfondir un petit peu. C'est pour exploiter pleinement son instrument. Alors là, il va falloir être capable de repérer quelques objets messiers, des étoiles doubles, accessible avec l'instrument qu'on utilise. Aller un peu plus loin dans la préparation de l'observation nocturne, lire, comprendre les éphémérides, utiliser un atlas du ciel, le document après la carte du ciel tournante, l'atlas du ciel, ou des logiciels comme Stellarium, des choses comme ça. On va pouvoir aussi donc exploiter toutes les possibilités de son instrument, monter, régler, entretenir son télescope ou sa lunette, pointer au chercheur sans le go-to, collimater un télescope, connaître les usages et les quelques principes sur les montures, motorisées ou pas, avoir quelques notions d'optique, quel grossissement je vais avoir avec tel oculaire, des choses comme ça. Il précise même avoir quelques notions de spectroscopie. Alors ça, la spectroscopie en amateur, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, j'ai l'impression. Ce qu'on en fait tous les jours, non. On a quelques notions, oui. Mais...
C'est particulier quand même, ouais. Parce que la spectroscopie...
C'est avec de la photo, c'est pas à l'œil nu, non ?
C'est avec des réseaux. En fait, tu fais une photo, tu récupères une photo du spectre, en fait. Non, c'est pas à l'œil nu.
Alors, j'ai pu observer dans un petit spectrographe en direct.
Ouais, c'est vrai. Ah ouais. Ouais, ça m'est arrivé aussi.
On pointe le soleil, on regarde, ça décompose, on voit les raies, on voit un arc-en-ciel avec les raies.
Ils en ont un Saint-Michel, l'observatoire, ouais. Comme ça.
C'était marrant.
On peut l'observer en direct. Après, bon, c'est vrai que c'est un autre plaisir quelque part.
Oui,
enfin, moi, j'avoue, j'ai pas de plaisir particulier à observer un spectre. En fait, ce que j'aime dans l'astro, c'est observer l'objet lui-même, parce que je trouve ça beau.
C'est ça.
Mais observer son spectre, c'est-à-dire les différentes longueurs d'onde qui composent sa lumière, en fait, ça renseigne sur sa composition. Mm. Après, on peut aussi, ça peut donner renseignements sur sa vitesse de déplacement par rapport à nous, etc. Mais là, on rentre dans autre chose. Oui. On n'est plus du tout dans une contemplation esthétique.
Non, là, c'est juste quelques notions, à savoir comment on décompose une lumière et qu'est-ce qu'on y trouve dedans. Je pense que ça suffit à avoir cette deuxième étoile. Et à l'issue de cette deuxième étoile, vous aurez une meilleure connaissance des notions de mécanique céleste, de l'organisation et de la population de notre galaxie, la Voie lactée.
La population de notre galaxie.
Ouais, la population d'astres.
D'étoiles.
Ouais, ou d'objets. Voilà. Mm. Des évolutions stellaires et des catégories d'étoiles. Quel type d'étoiles existe. Et pour finir, des principes, des notions sur les révolutions des satellites de Jupiter et de Saturne, et dans le cas de Saturne, de ses anneaux aussi, de son positionnement. Tu le disais tout à l'heure, on est au moment de l'année là où ils vont être le plus fins, le plus serrés. Pourquoi ça ? Si vous le voulez savoir, écoutez l'étoile polaire ou passez votre deuxième étoile.
Ça, c'est encore en une journée, une nuit.
C'est minimum. D'après la phase, ça, c'est minimum une journée. Ah, oui. Mais si c'est plus, c'est mieux. Et passons à la troisième étoile. Alors là... Là,
ça rigole plus.
Oui, et puis en plus, on va se fâcher.
Ah.
Mais moi aussi, je trouve ça un peu bizarre. Pourquoi la troisième étoile, elle est principalement ciblée sur l'astrophoto ? Alors qu'on peut encore développer beaucoup en restant dans le visuel, je pense. Bon, la troisième étoile, c'est très axé photographie.
Mais ce que je peux imaginer, c'est que, en fait, entre le moment où tu passes de l'observation des objets messiers et le fait de savoir collimater ton télescope, etc., et l'utiliser, et en fait, il y a tout un chemin, mais que tu peux faire que seul, en fait. Moi, je pense. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut t'entraîner. C'est-à-dire que maintenant, tu as compris le principe.
Ouais.
Ensuite, il faut juste y aller. Ouais. Et j'ai chopé arriver à trouver de plus en plus d'objets, de plus en plus isolés, faibles, etc.
Ouais,
mais en fait,
dans
ce que tu entreprends, c'est la même démarche. Et je pense que ça, t'as beau passer une journée avec eux, c'est pas en une nuit que tu vas devenir un observateur chevronné.
Ah, mais non, c'est sûr.
Par contre, l'astrophoto, là, tu rentres effectivement dans un autre domaine, quoi. Ouais. Mais j'ai l'impression, en tout cas, qu'avec le temps, et sûrement avec l'arrivée aussi des technologies plus récentes, etc., de photos numériques, l'astrophoto, elle a pris beaucoup plus de place. Moi, quand j'ai commencé l'astro, c'était une minorité de gens qui faisaient de l'astrophoto.
Ouais. Ouais,
c'était de l'argentique. Et c'était vraiment, il y avait quelques personnes qui en faisaient, mais le gros des gens en fait qui faisaient de l'astro, ils observaient en visuel, quoi.
Ouais.
Et j'ai l'impression que maintenant, il y a quand même de plus en plus de gens qui s'y mettent. Alors c'est peut-être une impression.
Ouais, en tout cas, dans les rencontres d'astronomes, dans les star parties, maintenant les zones dédiées à l'astrophoto sont plus grandes que les zones dédiées à l'astro visuel.
Hein.
Ouais. Eh bien, voilà, si vous voulez en apprendre plus sur l'astrophoto, vous pouvez chercher à passer votre troisième étoile, où là, il vous sera demandé d'être capable d'adapter un instrument d'optique pour faire de la photo, donc choisir soit un appareil photo, soit une caméra dédiée à l'astro, et acquérir des images utilisables, savoir effectuer quelques traitements de photos, réaliser des photographies en parallèle sur un télescope Alors, ça, je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par là. Tu fais du visuel et en même temps, tu fais de la photo.
Non, en parallèle, ça veut dire qu'en fait, tu utilises ton télescope comme un support pour viser, mais en fait, tu utilises un téléobjectif.
Tu poses dessus, oui, d'accord.
Voilà.
Ouais. C'est vrai que j'ai déjà vu ça. Merci, je ne l'avais pas su. choisir les filtres appropriés en fonction de ce qu'on va vouloir cibler. Et pourquoi pas même réaliser des mesures photométriques si on veut photographier des astéroïdes, par exemple. Ça, c'est ce qui est demandé pour la troisième étoile, mais au passage, on va apprendre d'autres trucs. Ils disent que vous pourrez avoir une meilleure connaissance sur certains points, sur des notions d'astrophysique, sur de la mécanique céleste, encore un peu plus, sur la recherche scientifique. Donc là, on sort de l'astrophoto. Hein. La mécanique céleste, par exemple, on va apprendre apprendre des notions sur les marées, sur les résonances, ils disent les orbites synchrones.
Ouais.
Voilà. Enfin, synchrone ou pas, ou les phénomènes de résonance aussi, le fait que quand un satellite va faire un tour, celui d'après va en faire trois, ou des choses comme ça, des choses qu'on observe autour de Jupiter ou de Saturne. Et puis, l'histoire des idées, l'histoire de la recherche scientifique, l'histoire de l'astronomie, comment tout ça s'est étoffé au fur et à mesure des générations de cerveaux qui ont chauffé sur ces questions. Voilà. Voilà un petit peu ce qu'on peut faire avec cette troisième étoile. Je vous passe après des trucs beaucoup plus précis. Ils disent qu'on pourra réaliser des expériences comme estimer la distance d'une étoile ou mettre en évidence des rotations de Jupiter, de Mars, des choses comme ça.
Wow. Estimer la distance d'une étoile, ça c'est balèze déjà.
Ouais. Ah oui, là on commence à...
Ouais, mais ça, oui. Bon, ça dépend...
En une soirée, comme ça.
Ça dépend de quelle étoile pars, tu vois, si tu penses aux étoiles proches, tu fais une triangulation sur les étoiles proches, ça marche.
C'est ça. Voilà, et donc, si vous en voulez encore, après ces trois étoiles, et bien là, vous pouvez passer une quatrième étoile plusieurs fois, comme je disais au début de cette chronique, puisque elle est distribuée pour une technique donnée pour une spécialisation, c'est vraiment de la spécialisation. Donc on va pouvoir passer une quatrième étoile dans la spectroscopie, par exemple, dans la photométrie, dans l'astrophoto, dans les comètes, dans les étoiles doubles. Enfin, à chaque fois qu'on va passer un stage là-dedans, ça va être très, très ciblé.
C'est pour ça que tu disais qu'on peut la passer plusieurs fois.
Oui, voilà. Voilà, un petit peu le programme de ces étoiles décernées par l'AFA, via ses partenaires, le centre de formation, comme je le disais, le plus proche de chez nous, l'OBP, à côté de Rémusa.
Est-ce que tu as une idée des prix qui sont pratiqués? Est-ce que ça dépend du coup des lieux qui accueillent les stages, j'imagine, ou est-ce qu'ils ont...
Je pense que ça dépend des lieux. À l'OBP, j'ai plus le prix en tête, mais c'est cher parce qu'il y a l'hébergement et le couvert avec. Sans ça, je pense que c'est moins cher. Non, j'ai pas l'idée là, comme ça.
Si ça vous intéresse, renseignez-vous. Mais c'est vrai que c'est. Ça peut être intéressant de faire des stages comme ça si on n'a pas la chance d'avoir des gens comme nous pour vous montrer. Non, mais c'est vrai que s'il n'y a pas de club d'astro là où on habite, sinon c'est des choses qu'on peut apprendre en club.
Oui,
des trucs
c'est ce que j'allais dire.
Tu vas au club, ça coûte pas très cher.
Non, mais si tu fais un stage, après tu reviens, tu es déjà un peu plus à l'aise, je pense, pour observer tout seul.
Oui, c'est sûr. C'est sûr.
Ça peut être un bon choix. Ouais.
Voilà la description de cette première partie du passeport astronomie, parce qu'il y a une seconde partie qui est là, dédiée plus à l'animation astro, justement à se former, à être animé. Donc des choses plus rentrées dans la pédagogie de la chose. Peut-être que j'en parlerai une prochaine fois, mais c'est pas sûr. En tout cas, je pense qu'on reparlera de deux points que j'ai abordés, soit du passeport astro, enfin du stage des étoiles, avec une invitée qui passera un de ses jours dans l'émission et qui a passé ses étoiles il y a quelques années et qui pourra peut-être nous en parler. Ou bien on recevra aussi probablement un astrophysicien qui travaille à l'OBP et qui viendra nous parler de ses recherches, mais aussi un petit peu de l'OBP. Donc voilà, on pourra développer l'histoire de cet observatoire avec lui.
Je vais quand même rajouter un petit... J'avais fait une émission où j'avais parlé du géospace, l'observatoire d'Anian dans l'Hérault. Ouais. Parce qu'en fait, l'observatoire d'Anian, c'est l'AFA qui l'avait construit justement, l'Association française d'astronomie dont tu parles là. Ouais. Et je crois qu'ils ont construit ça dans les fins 70, début 80. Donc c'était que des amateurs hein, qui avaient construit des coupoles, etc. Enfin, le site était vraiment chouette. Et dans les années 90, ils organisaient des stages. C'était des colonies astro. Et là, ça durait 10 jours, par contre. Et il y avait initiation et perfectionnement. Et tu y allais, tu passais 10 jours. Et ce qui était assez chouette, c'est que, bon, déjà c'est 10 jours, t'as le temps. Vraiment d'apprendre à faire des trucs avec ton télescope. Et donc il y avait du chouette matos. Et puis les petites coupoles, tout ça, enfin toute une ambiance. T'es en colo en plus. Tu vois, c'est pour les ados. Ah, donc t'es avec une quinzaine d'autres personnes qui viennent de toute la France. Et en plus, on était. C'est des colos que j'avais faites en fait. C'est comme ça que j'ai attaqué vraiment. Et c'était chouette parce que justement, ça sortait pas très cher. Parce qu'on était logés dans un centre de vacances, en fait, avec d'autres gamins qui étaient en colo, en hébergement collectif, qui fait qu'au final, la colo sortait à des prix qui restaient abordables, quoi. Et c'est l'AFA qui a organisé ça. Et ils avaient aussi un stage, justement. En fait, ça m'y fait penser, mais je pense que eux c'est ce qu'ils proposent là avec le passeport, c'est une continuité de ce qu'ils faisaient déjà à Anian à l'époque. Ouais, parce qu'il y avait initiation, perfectionnement, et derrière, il y avait un stage de formation d'animateur.
Ouais, c'est quelque chose qu'ils pouvaient faire généralisé depuis
Après bon, le Anian, ça a fermé, mais il y a déjà un bon moment.
On en a reparlé récemment. Ça a réouvert, ça a été abandonné quelques années, puis ça a réouvert, ça a été racheté, ça a changé un peu de forme. Faudra voir ce qu'ils proposent aujourd'hui, mais
ça a réouvert, mais à voir sous quelle forme, parce qu'il y a toute une époque où c'était abandonné. Genre, moi j'étais remonté là-bas, c'était ambiance un petit peu Mad Max, quoi.
Ouais, début des années 2000, 2005,
la route était défoncée, ça avait été à moitié vandalisé, enfin bon, voilà. Mais ensuite, ça avait été racheté par des gens, mais qui faisaient de l'hébergement insolite sous coupole, avec éventuellement des soirées astro grand public. Mais ce n'était pas du tout la réouverture telle qu'on pouvait l'imaginer. Donc après, je n'ai pas suivi. Parce que d'ailleurs, ce qu'ils faisaient aussi à l'époque et que je trouvais vraiment génial, c'était une fois qu'on avait fait les stages, etc., ils proposaient aussi de louer les coupoles. Donc il y avait un hébergement sur place. Pareil, c'était vraiment pas très cher, quoi. Et tu y allais et tu pouvais... Et pareil, la coupole, tu y allais à plusieurs, tu t'en tirais pour... C'était quelques dizaines de francs par nuit, quoi.
Pour ouvrir l'astronomie à tous.
C'était vraiment... Pour le coup, l'esprit était vraiment, vraiment chouette, quoi.
Toi, t'as fait une colo là-bas?
Moi, j'y suis allé 4 fois, en fait. Fait l'initiation, le perfectionnement, après j'ai fait le stage de formation d'animateur, et après... Non, j'ai jamais animé là-bas.
Tu as fait 4
colos. Si, j'ai animé là-bas. Mais si, oui.
Ah ouais, après, tu étais.
Et après, j'étais animateur là-bas.
Excellent.
C'était chouette. C'était mon premier boulot, en fait.
Trop bien.
Quand j'étais étudiant, c'était ça. Ouais. Bon, en tout cas, ils avaient fait vraiment quelque chose de très chouette. Et je vois que là, en fait, ils s'inspirent quand même de ça.
Oui.
Mais sous une forme un peu plus moderne et un peu plus rapide.
Mais sinon, parce que c'est
les objectifs
dense,
sont un peu les mêmes, quoi. Ok. Et ben on va passer à la pause musicale. Cette semaine, ça va être un morceau des Rolling Stones avec Sway. We'll be right back. Et bon retour dans l'Étoile polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDOA. Alors après cette petite pause musicale, on est passé un morceau des Rolling Stones parce que j'avais réalisé que depuis 96 émissions, on en avait passé zéro des Rolling Stones. Ah, quand même, non, il fallait rectifier ça. Alors on va passer toujours à la rubrique Abrac, mais dans sa deuxième partie, où cette fois là, Pierrick, tu vas nous parler de la force de Coriolis.
Ouais, je vais vous parler de cette force, cet effet, qui est quand même puissant. Hein, donc, de quoi on parle ? On va parler de physique, de géographie physique, d'astronomie. Et cette force de Coriolis, hein, effet de Coriolis, hein, c'est une force qui est donnée par la rotation de la Terre. C'est une force induite par l'accélération due à la rotation de la Terre sur tout corps en mouvement à sa surface. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C'est lorsqu'un corps se déplace le long d'un axe de rotation, la force de Coriolis, elle agit sur cet objet en mouvement, en plus d'une force centrifuge. Donc, l'exemple le mieux que j'ai trouvé pour essayer de représenter ça, c'est, on va prendre pour exemple ces espèces de gros axes qui tournent dans l'espace, là, ces grosses roues, ces roues de gravité, enfin qui n'existent pas, hein, mais qu'on s'imagine.
Ouais, qu'on a vu dans certaines œuvres de science-fiction.
Ouais, ouais. Voilà, pour essayer de reproduire de la gravité artificiellement, on a imaginé qu'on pourrait créer des énormes roues dans l'espace qui tournent.
Et des grands bras avec au bout des bras des cabines. Donc ouais, en fait, elles sont
aussi
en train de tourner.
Oui, voilà.
Et en fait, à l'intérieur, du coup, ça génère une gravité, quoi. Eh ben, c'est une illusion, une accélération qui est l'équivalent d'une gravité, c'est Einstein.
C'est ça, ouais. Ouais. Et donc ça fait une force centrifuge, donc on imagine quelque chose qui tourne assez vite et qui nous plaque un peu au sol. Donc ça, c'est la force centrifuge, ça tout le monde le connaît à peu près. Et donc ça imiterait une gravité. Et la force de Coriolis, donc c'est un peu en plus de cette force centrifuge. C'est-à-dire que cette force de Coriolis, si on avait une balle dans les mains et qu'on la lâchait quand on est dans cette roue, qu'on tourne, et ben on a l'impression qu'elle descend vers le bas. Mais en fait, si on se place à l'extérieur de cette roue et qu'on regarde ce qui se passe, en fait, la balle, elle va aller plutôt en avant. En fait, c'est quand on lance un objet dans un truc qui tourne, finalement, l'objet va se courber, en fait. Parce que plus on va vers le centre, de l'axe qui tourne, plus on va aller doucement. Donc ça marche pour tout. Hein. Ça marche pour les voitures. Il y a toujours un différentiel dans les voitures pour que les roues de gauche et droite s'équilibrent. Si on n'a pas ce différentiel qui régule la roue gauche et la roue droite dans un virage, ça marche pas. Donc là, on est un peu sur les mêmes effets. C'est-à-dire que plus on s'approche du centre de l'axe de rotation, et plus on ralentit, et plus on s'écarte, et plus on accélère. Et donc, quand on va, par exemple, lancer une balle en l'air, eh ben, la balle, au lieu d'aller tout droit, elle va faire une courbe et aller de l'autre côté. De même que si on la lance fort, cette balle, on peut éventuellement se la prendre dans la tête à l'arrière. Donc la force de Coriolis, c'est ça. Et c'est une force importante, hein, qui sur la Terre a beaucoup d'impact, parce que elle peut aussi cette force, elle dicte la direction des vents, des courants océaniques. Par exemple, les gros anticyclones tournent dans un sens dans l'hémisphère nord, tournent vers la droite, et ils tournent vers la gauche dans l'hémisphère sud. Tous les ouragans, toutes les dépressions, tout ça, elles tournent dans un sens.
Ou aussi l'eau dans le lavabo.
Et tout à fait.
Souvent, l'exemple qu'on prend, dans l'hémisphère nord, ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, et dans l'hémisphère sud, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Et j'ai vu une vidéo assez troublante.
Je crois qu'il n'y a pas assez de masse pour que ce soit vrai, ça. C'est une légende urbaine.
En fait, c'est une demi-légende urbaine parce qu'en réalité, ce qu'ils expliquent. Oui, t'as raison, au sens où, en fait, ce qui détermine la façon dont ça va s'écouler, c'est la forme du lavabo.
Ouais.
Et c'est pas la forme du lavabo. C'est vrai. Mais en attendant, il y a quand même cet effet que sur les tornades ou tout ça.
Ah oui, ouais, ça tourne dans le
sens. Il y a vraiment une rotation inversée. Mais t'as raison, sur le lavabo.
C'est comme les marées qui marchent pour les océans, mais pas pour les piscines.
Bah elle marche, mais sur un effet qui est tellement ridicule, en fait,
c'est négligeable que
ça ne se voit pas. C'est vrai.
Parce que sinon, à l'équateur, ça tombe droit, ça ne tourne pas.
Alors, j'ai vu une vidéo assez bluffante en Ouganda, en Afrique. Ils sont pile sur l'équateur, ce pays. Et donc, pile à l'équateur, il remplit une bassine d'eau et il la vide. Et il met une fleur dessus qui flotte sur l'eau. Donc, on voit si ça tourne ou si c'est... Donc, pile à l'équateur, il fait ça. Et la fleur, elle coule droit. Il fait une dizaine de mètres sur le côté, il part dans un hémisphère, il refait la même expérience.
À 10 mètres d'écart.
Oui, non, c'est de la précisionisation.
Ouais,
mais je te jure.
Oui. Tu m'aurais dit encore 10 kilomètres.
Il remplit d'eau, il la stabilise même avec une croix, tu vois, pour qu'elle soit un peu figée. Il débouche, il met sa petite fleur là, et ça tourne dans un sens. Il fait pareil de l'autre côté, ça tourne dans l'autre sens. Donc effectivement... À voir, mais...
Non, mais si tu l'as vu sur Internet...
C'est vrai. Hein.
Non, mais j'ai quelqu'un qui... Je connais quelqu'un qui a voyagé là-bas et qui a vu ça. Et, mais pour montrer ça, il te demande de l'argent, le gars. C'est un attrape-touriste, quoi. Enfin, pour moi, c'est ça.
Un tour.
Ouais, c'est un petit tour de magie, quoi.
Je ne sais pas. Bon, en tout cas, la force de Coriolis, elle existe.
Ouais, en tout cas...
Ah oui, Pierrick.
Ça, il n'y a pas de doute.
Non, mais voilà, ça, c'est un truc un peu marrant. Enfin, en tout cas, il y a plein d'autres choses... qui se passe avec cette force, hein. Notamment, il y a un truc, ça m'est venu de là, je discutais avec un copain charpentier, et on parlait de bois, de poutres, qui sont toujours courbes. Pourquoi un bois, on le prend, on le taille, on fait un carré, et pourtant, à la fin, il est toujours un peu courbe. Et en fait, ça serait dû à la force de Coriolis, parce que les arbres, ils pousseraient un peu en spirale.
Ah ouais, dans leur façon de...
Quand ils poussent, ils sont un peu influencés par la force, très légèrement, hein, mais quand même. Et du coup, ils poussent toujours en spirale. Et ça, c'est vrai, j'ai vérifié. Ça, c'est... Et alors, dans l'hémisphère nord, ils poussent dans un sens, et dans le sud, dans l'autre. Donc voilà, ça influerait aussi là-dessus. Donc ça, c'est quand même assez étonnant. Hein.
Ouais.
On les voit, hein, tous les arbres, ils poussent, ils se décalent en spirale. Ça, c'est... Voilà. Et donc cette force, elle est aussi dans tout projectile tiré. Alors ça sert beaucoup pour l'armée, les tireurs d'élite, tout ça. Elle est toujours prise en compte.
Voilà.
Elle est toujours prise en compte pour...
Oui, pour les tirs étudier à plusieurs kilomètres.
Voilà, ouais. Étudier les balles qui arrivent. Voilà, donc... Il y a aussi le pendule de Foucault, qui est un peu une... finalement, une petite variante. J'avais parlé de ça à un moment.
On avait parlé effectivement dans les calculs du pendule de Foucault, si tu veux vraiment faire ça correctement, tu dois tenir compte de la force de Coriolis.
Ouais, c'est ça qui joue là-dessus. Et je voulais mentionner dans Frank Herbert les tempêtes sur Arrakis et les tempêtes de Coriolis. Sur Dune, le célèbre livre de Frank Herbert. Voilà. Et c'est un peu ce que je voulais vous dire de Gustave Coriolis qui est quelqu'un qui a créé cette loi en 1835. Et qui est quand même à une époque où il fallait réfléchir un peu avant de trouver tout ça.
Ouais.
Parce que pas si simple de définir les courants océaniques. Et que cette force est nulle à l'équateur aussi. Donc c'est quand même... Et que c'est aussi quelque chose qui se passe dans un référentiel. Si on sort de ce référentiel, par exemple, le pendule de Foucault, c'est flagrant. Si on se met sur un axe qui tourne et qu'on fait balancer le pendule de Foucault, si on est à l'extérieur, le pendule il bouge pas, il reste tout droit alors que l'axe tourne.
Mm.
Si on se met dedans, on a l'impression que le pendule se met à tourner. Alors qu'en fait, non. Voilà, donc ça c'est aussi important d'avoir un endroit, un référentiel aussi, si on est dedans ou qu'on se place en observateur, ça change. Donc ça c'est assez important. Dans la physique en général.
Force de Coriolis, c'est quand même surtout utilisé en... Parce que là, tu parles de mécanique, tout ça, pour la Terre, mais c'est aussi surtout utilisé en mécanique des fluides.
Ouais.
tous les effets de tourbillons, les petits vortex, les trucs, enfin dans la façon dont les fluides s'écoulent, alors que ce soit des liquides ou des gaz, plutôt des liquides, mais là il y a toujours, toujours, pour ça qu'en météo, hein, c'est super important aussi.
C'est ça.
Et ça, c'est une force de une force qui crée des tourbillons en fait, hein, dans les fluides.
Ouais. Et finalement elle est partout présente.
Oui, on peut l'observer sur Jupiter facilement, j'allais dire, presque facilement.
Avec nos télescopes,
voilà, à l'aise. Nous voir. Et
ouais, sur Vénus, sur partout où il y a une atmosphère, en fait. Ça se joue là, ouais.
C'est sûr.
Ok, et ben merci Pierrick. On va clôturer cette émission avec une dernière rubrique, la chronique astrale. Et donc cette semaine, j'avais envie de faire un court petit point sur un peu les mots pour décrire le monde. C'est-à-dire le vocabulaire qu'on utilise tout le temps. Et c'est vrai qu'on ne peut pas, dans chaque émission, réexpliquer ce qu'est qu'un atome, une molécule ou des choses comme ça. Donc là, j'avais envie de brièvement en fait, caler ces mots-là pour tout le monde. Et je vais commencer par le premier, c'est atome. Et c'est quand même la base en fait, de toute la matière qui est autour de nous et qui nous constitue. Ce sont les atomes. Alors, étymologiquement, atome, du grec, ça veut dire qui ne peut pas être divisé. Et donc, c'était un truc qu'eux, ils avaient imaginé en disant, on n'est pas capable de le voir, mais il doit y avoir une sorte de brique élémentaire, hein, comme pour les Legos, de brique élémentaire de la matière. Et nous, on va dire que c'est les atomes. Alors, pour ceux qui sont allés un petit peu au collège ou au lycée, dans toutes les salles de physique, il y a ce grand tableau, la classification périodique de Mendeleïev. On avait fait une émission, d'ailleurs, sur Mendeleïev et sur cette classification, où là, vous avez tous les atomes qui sont rangés. Et donc, ça commence avec H, l'hydrogène, HE, l'hélium, C, le carbone, N, l'azote, O, l'oxygène. Voilà, c'est ça, les atomes. Et ça, c'est la base de toute la matière.
C'était la 7e émission.
Ouais. Mais je pense que...
Tu l'as refait.
Ouais, il me semble qu'il y a... Mais d'accord. Oui, Mendeleïev, ouais. Bref. Donc voilà, ces atomes, c'est la base. On ne va pas, pour l'instant, rentrer dans comment est constitué l'atome. Peut-être que j'y reviendrai à la fin. Ces atomes, une fois qu'on part de ces briques, on en fait quoi? En fait, ils n'existent pas à l'état... C'est extrêmement rare de trouver juste un atome tout seul. Les atomes, ils se regroupent et ils forment des molécules. Donc c'est le deuxième mot, les atomes. Ils se regroupent pour former dans la nature des molécules. Donc, par exemple, plus simple, l'eau. Et on dit H2O. Donc on a dit H, c'est l'hydrogène, O, c'est l'oxygène. H2O, ça veut dire qu'une molécule d'eau, c'est en fait un atome d'oxygène qui va être relié à deux atomes d'hydrogène. Et de là, vous prenez plein de molécules d'eau et vous avez ce que nous, on va appeler de l'eau. Voilà, un verre d'eau. Et donc, on passe du microscopique au macroscopique. Donc, les molécules, elles sont beaucoup plus grosses que les atomes, hein, mais elles restent quand même invisibles à l'œil nu. Il faut quand même un microscope pour les voir. L'atome, pour le voir, il faut un microscope électronique. Il faut des microscopes déjà un peu plus... C'est pas avec un microscope optique que tu vois un atome, a priori. Voilà. Donc, on passe aux molécules. Et en fait, ça y est, on est dans le monde. On est dans le monde qu'on peut observer. Et donc, ces molécules, elles vont former quoi? Elles vont former, pour commencer, des planètes. Enfin, pour commencer.
Direct.
Fois, non, mais bon, je vais pas parler. Oui, bon,
d'accord.
Donc, ces molécules vont former.
La matière, quoi.
La matière, ouais. Et donc, à l'échelle de l'astronomie, le plus petit, c'est la planète qui tourne autour des étoiles. Donc, et on a les étoiles. Voilà. Donc, on rappelle, c'est l'occasion de distinguer entre les étoiles et les planètes. Une étoile, c'est une énorme boule de gaz qui émet de l'énergie, qui en son cœur fait la fusion nucléaire. Et en fait, elle a été créée à partir d'une énorme quantité de gaz. Et autour d'elle, dans un disque, se forment des planètes qui, elles, n'émettent pas de lumière. Voilà, donc tous ces... Et on a ces étoiles avec leur cortège de planètes. L'étape suivante, c'est les galaxies. Les galaxies regroupent environ 100 milliards d'étoiles. Ils ont entre quelques dizaines de... 2 milliards et quelques centaines de 2 milliards pour les plus grosses. On a des galaxies. Là aussi, ces galaxies peuvent avoir plein de formes différentes. On a aussi fait des émissions là-dessus, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et voilà, en fait, pour l'architecture de la matière, en réalité, et voilà pour ces mots qu'on utilise tout le temps, un atome, c'est la brique élémentaire, les éléments chimiques, le fer, le carbone, les purs, qui, en fait, dans la nature, n'existent quasiment pas, qu'on trouve sous forme de molécules, qui sont un groupe d'atomes qui se mettent entre eux pour former, du coup, une nouvelle matière. Et puis ensuite, au niveau de l'astronomie, on passe sur les étoiles avec les planètes autour, les étoiles qui se regroupent en galaxies. Alors, si on veut aller plus loin d'un côté ou de l'autre, ces galaxies, elles ont elles-mêmes des structures, puisqu'elles ne sont pas réparties n'importe comment dans l'univers. Ça aussi, on a déjà eu l'occasion de le mentionner, mais je le redis. On y a des amas de galaxies. Les galaxies, elles sont en groupe aussi. Donc des zones où il y en a beaucoup moins, d'autres, il y en a plus. Et puis même, on observe un peu une espèce de structure en filament. En fait, c'est un peu étonnant, parce que moi, je trouve qu'il y a une similitude entre la structure de l'univers à grande échelle et un peu les réseaux neuronaux. Une forme un petit peu comme ça de... d'endroits vides, d'autres plus remplis. Enfin bon, ça c'est bon. On n'a pas une cartographie de toute façon. On est loin d'avoir une cartographie exhaustive des galaxies dans l'univers. Et puis si on descend un petit peu à l'échelle, on va dire subatomique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans l'atome, je vais quand même le mentionner parce qu'on en parle régulièrement en fait aussi dans l'émission. On parle souvent d'électrons, de protons, de choses comme ça. On parle des noyaux. Donc un atome, c'est constitué par un noyau qui est beaucoup plus petit que l'atome lui-même, et autour de ce noyau, on va trouver des électrons. Le noyau, toute la masse, elle est dans le noyau. Et les électrons, ils sont beaucoup plus petits, ils tournent autour et ils sont chargés négativement. Et ces électrons, enfin, ils tournent pas, ils sont autour. Et ces électrons, ils peuvent parfois être arrachés, ou au contraire, l'atome, il peut absorber des électrons transitoirement. Donc en fait, il y a tout un jeu entre les électrons qui vont et viennent autour du noyau. Et le noyau, lui, il est constitué par des protons et des neutrons. Donc là, on rentre dans le domaine des particules élémentaires, les protons, les neutrons, qui sont eux-mêmes constitués de quarks. Voilà, je vais m'arrêter là. C'était juste un petit survol. Pour mettre au clair tous ces mots qu'on utilise quand même de façon très très régulière, qu'on a déjà parfois pris le temps de définir un peu, mais j'avais envie de faire ce petit rappel là pour tout le monde. Voilà pour cette chronique.
Merci Fred. Ouais.
Pour achever tout le monde, on peut rappeler qu'il y a probablement plus de molécules, pas d'atomes, de molécules dans une goutte d'eau que d'étoiles dans l'univers.
Voilà. Sur ces bonnes paroles, on vous laisse méditer et on vous dit à la semaine prochaine.
Ciao.
Salut.